Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission sur SBS French. Nous sommes le samedi 10 mai 2025. Nous allons passer une heure ensemble et aujourd'hui, exceptionnellement, nous commençons par le personnage de la semaine. Le personnage de la semaine pour qui le chemin fut long et jusqu'au bout semé d'embûches. Le conservateur allemand Friedrich Merz a officiellement reçu son mandat de chancelier pour les 4 ans à venir après avoir été élu au deuxième tour par les députés de Bundestag, portrait du nouvel homme fort de la première puissance économique européenne par François Vanthomme.
Friedrich Merz, nouvellement élu chancelier allemand, est une figure politique dont la vie personnelle est marquée par la discrétion et l'engagement familial. Né le 15 novembre 1955 à Brilon, en Allemagne, Merz a été élevé dans une famille qui prônait des valeurs de travail acharné et de responsabilité. Marié et père de 2 enfants, Merz considère sa vie de famille comme une priorité essentielle. Il apprécie particulièrement les escapades en dehors des grandes villes où il peut se ressourcer. Amateur de littérature, Merz trouve du réconfort dans les livres qu'il considère comme une autre forme de voyage. Il aime également le sport, en particulier le football, qui est un moyen de partager des moments de convivialité avec ses amis et sa famille. Ce multimillionnaire, pilote amateur et propriétaire d'un jet privé, a longtemps été perçu comme un grand bourgeois hautain, même s'il a tenté lors de la campagne de renvoyer une image d'élu accessible et humain, se montrant verre de bière à la main lors d'un meeting ou dévoilant des drames privés méconnus, comme le décès à 21 ans de sa jeune sœur dans un accident de voiture.
Politicien de longue date, Merz a commencé sa carrière politique au sein de l'Union chrétienne démocrate, la CDU, dans les années 90.
Il a été député au Bundestag et a également occupé des postes de direction au sein du parti, se distinguant par ses positions fermes sur l'économie et le marché du travail. En 2002, il choisit de se retirer de la politique après avoir perdu la présidence du groupe parlementaire CDU-CSU au Bundestag. Pendant cette période, il s'est concentré sur sa carrière dans le secteur privé, notamment en tant qu'avocat et consultant. Il est revenu sur la scène politique en 2018 lorsque le CDU a entamé un processus de renouvellement de sa direction. Merz a réaffirmé son engagement politique, il est revenu en force et a été élu président de la CDU en 2021, remportant le soutien de nombreux membres du parti. Dès son élection à la tête de la CDU, il avait annoncé un renversement complet de la généreuse politique d'accueil héritée d'Angela Merkel. Une revanche en quelque sorte face à celle qui l'écarta en 2002 du poste stratégique de président du groupe parlementaire CDU.
Et François, celui qui n'a jamais occupé de poste ministériel, prend maintenant les rênes de la première puissance européenne à un moment de basculement géopolitique où l'Europe cherche à s'affranchir de la tutelle militaire d'un allié américain devenu imprévisible pour assurer sa défense face à la menace russe.
En effet, atlantiste convaincu, il n'en a pas moins promis de ramener son pays au centre du jeu européen avec une voix forte pour défendre les intérêts du continent, visé aussi par la guerre commerciale de Trump. Ce partisan d'une aide sans faille à l'Ukraine a déjà marqué les esprits en annonçant dès mars avec ses partenaires gouvernementaux du Parti social-démocrate un programme de dépenses inédit de plusieurs centaines de milliards d'euros pour réarmer et moderniser l'Allemagne, jusqu'ici très attachée à l'orthodoxie budgétaire. Beaucoup, y compris dans ses rangs, lui reprochent d'avoir trahi sa parole en réformant le frein à la dette inscrit dans la Constitution, ce mécanisme limitant la capacité d'endettement, mais aussi d'investissement du pays. Beaucoup va dépendre de l'habilité de Friedrich Merz à vendre l'idée que la sécurité est désormais la priorité absolue et que l'endettement pour cela est inévitable. Libéral convaincu, il veut avant tout réduire les impôts des entreprises et la bureaucratie. Celui qui a promis de redonner sa fierté à l'Allemagne va aussi devoir trouver la parade pour résoudre la crise profonde du modèle industriel traversé par le pays qui pourrait être aggravé par les nouveaux droits de douane décrétés par Trump. Beaucoup pensent à la CDU que Merz et Trump pourraient bien s'entendre. Merz connaît les États-Unis, il a fait carrière dans le secteur privé, c'est donc aussi un homme d'affaires, ce qui devrait plaire aux faiseurs de deal de la Maison-Blanche.
Merci beaucoup François Vantôme.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et dire qu'hier encore le cœur plein d'amertume, j'étais à ma fenêtre à observer la lune.
C'était Dorothée Rascle qui reprenait la chanson Paris sous la neige. Restez sur SBS French, messieurs, dames, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant pour une interview qui devrait vous mettre l'eau à la bouche. On va parler gastronomie, fromage plus précisément, et Accor mets vins. C'est dans un instant.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Nous sommes en ligne avec Valérie Enbest. Valérie, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous êtes la fondatrice de Smelly Cheese Company. C'est un magasin de fromage, mais pas comme les autres, on va en parler. Et on y trouve, paraît-il, les meilleurs fromages du monde, Valérie. Alors on imagine, vous avez beaucoup de fromages français.
C'est une aventure que j'ai démarrée il y a une vingtaine d'années. Et en fait, je suis arrivée ici en tombant complètement amoureuse de l'Australie, sauf qu'il me manquait un petit peu de fromage. Et je me suis dit que si je voulais vivre ici pour toujours, happily forever after, comme on dit, j'avais besoin de me procurer un tout petit peu des fromages qui me manquaient. Cette aventure m'a amené aujourd'hui à couvrir l'ensemble du monde. Je me balade partout, je vais chercher des fromages dans le monde entier, je rencontre des gens extraordinaires. Et du coup, on a une sélection unique, relativement exceptionnelle, énorme. Je fais venir plus de 100 tonnes par an de fromage. Donc, c'est une belle aventure. Vraiment, elle est venue relativement organiquement, mais aujourd'hui, je me régale des meilleurs fromages du monde, comme vous dites.
Bon, maintenant qu'on vient de parler de fromage du monde entier, des meilleurs fromages et qu'on a l'eau à la bouche, on a envie d'en manger. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous êtes au marché d'Adélaïde depuis 25 ans, c'est ça?
Effectivement, nous sommes dans ce marché iconique d'Adélaïde qui est extraordinaire, donc un marché couvert qui a des qualités exceptionnelles. Et la qualité numéro une, c'est que visuellement et olfactivement parlant, c'est exceptionnel. Vous arrivez dans un univers de bons produits. Et puis si vous suivez votre nez, eh bien vous allez me trouver puisque je suis à peu près au milieu du marché.
En plein milieu, oui.
Et donc on est à côté d'une boulangerie, bien sûr c'est un petit peu, ça va de pair, on a le pain. Et puis depuis 3-4 ans, je me suis aussi lancée dans le vin, le champagne. Et donc j'ai à peu près une bouteille de champagne avec chaque fromage, enfin en tout cas chaque type de fromage, on peut vous diriger vers le meilleur mariage avec vin ou spiritueux d'ailleurs, ou champagne. Donc en fait c'est un one stop shop, un peu comme les fromageries qu'on trouve en France. À Paris, il y a des magnifiques fromageries où vous avez tout. Si vous voulez faire un bon plateau de fromage, vous avez tout ce qu'il faut sur un stop.
Vous faites aussi des masterclass, Valérie, et notamment il y en a une à Paris en mai avec Laurent Dubois. Ça se passe au Printemps du Goût. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors je suis tellement heureuse de cette expédition. C'est la deuxième année consécutive, puisque l'année dernière, au mois de septembre, on a fait le premier événement au Printemps du Goût avec Laurent Dubois, qui est un meilleur ouvrier de France. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance, question fromage, c'est bien lui. Il a 5 boutiques à Paris et il a été appelé par le printemps où il vend au 8e étage de son fromage et a aussi un restaurant. Et donc, cette année, le 21 mai, exactement, de 5h à 7h, nous allons recevoir 25 lucky, très chanceux invités, puisqu'en fait le local est relativement petit, mais on va être sur la terrasse qui donne sur la Tour Eiffel et tous les toits parisiens, l'Opéra à gauche, la Madeleine en face. Bref, c'est vraiment un moment où on se dit, pince-moi, je rêve.
Et c'est quoi? C'est une masterclass qui parle des vins et des fromages franco-australiens?
Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que j'arrive avec 3 fromages australiens. Cette année, je viens avec un fromage de chèvre fait par Chris Lloyd, de Woodside, qui est couvert de lemon myrtle, de la myrte citronnée, je pense qu'on dit en français. Une roue de Banksia réserve, donc c'est comme un gruyère fait à Castlemaine, dans le Victoria, par Long Paddock. Un fromage exceptionnel, je pense, qui va vraiment surprendre les Parisiens. Et puis, une pâte lavée de Milawa, donc encore dans le Victoria, qui s'appelle King River Gold, une des plus vieilles pâtes lavées australiennes. Et vraiment une pâte lavée aussi qui a du caractère. Et donc, Laurent se charge de faire le pairing avec le mariage avec du vin français. Et lui prépare 3 fromages français que je vais donc marier avec des vins australiens, puisque je travaille avec un représentant de vin du monde, Vino Delis, qui va donc m'aider à marier les fromages français de Laurent. Donc, une vraie collaboration franco-australienne. Et je pense que pour les Français, c'est toujours une grosse surprise, parce que si vous interviewez n'importe qui en France, si vous lui demandez combien de fromages australiens ils connaissent, je pense que je connais la réponse.
Zéro.
Exactement.
Bon, tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont évidemment envie d'aller à cet événement, mais voilà, c'est à 17 000 km d'ici, pour une soirée, ça fait un peu loin. Est-ce que vous avez d'autres masterclass ici en Australie?
Alors oui, puisque effectivement chaque mois, nous créons avec l'équipe d'Adélaïde des masterclass qu'on appelle Cheese After Dark, puisque ces classes ont lieu après la fermeture bien sûr du marché, donc de 6h30 à 8h30. Nous installons des longues tables et il y a une 50aine de personnes. J'ai choisi 5 fromages uniques et généralement donc j'invite des viticulteurs, des vignerons. Ils viennent présenter leurs produits et voilà, donc on démarre avec généralement un triple crème, un chèvre, après un comté ou une pâte semi-dure, puis une pâte lavée et on finit avec un bleu. Et donc, en fait, on raconte des histoires. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être davantage une raconteuse d'histoires qu'une fromagère, quoi. C'est le fromage, pour moi, est une porte d'entrée à des histoires fabuleuses qui parlent non seulement d'un pays, d'une culture, de tradition, de géographie, d'histoire. C'est énorme, énorme. Et là, je me pince parce que c'est tellement riche. J'ai toujours l'impression d'apprendre des milliers de choses, de rencontrer des gens nouveaux avec d'autres histoires. Donc, je pense que les gens, quand ils viennent, ils repartent avec des étoiles dans les yeux et l'impression d'avoir appris plein de choses. Et une fois qu'on a un tout petit peu le goût de comprendre ce qu'on mange ou ce qu'on boit, eh bien, l'aventure est encore plus riche et puis on se fait encore plus plaisir. Et c'est un peu le but.
Et vous sentez une demande croissante? Le fromage, surtout ici en Australie, on ne va pas se mentir, c'est extrêmement cher. En ce moment, il y a la crise du coût de la vie, les gens dépensent peut-être un petit peu moins. Est-ce que vous sentez justement donc une demande croissante pour accéder à ces histoires, comme vous dites? Ou au contraire, est-ce que vous voyez quand même un certain recul ces dernières années?
Ça, c'est très intéressant, une très bonne question, parce que c'est vrai que le Covid a fait du mal à tout le monde. Là, effectivement, on sent énormément cette période de récession où les gens font très attention. Manger moins mais mieux, c'est peut-être la solution. Ce que je vends aujourd'hui, c'est ce que je vendais pas il y a 10 ans, par exemple, c'est des demi-camemberts, ça ne m'arrivait jamais, des demi-époisses, des quantités un peu moindres, mais je pense que les gens continuent et viennent se faire plaisir avec un petit peu moins. S'ils ont un budget de 25 dollars, eh bien, soit. Les gens qui viennent à Smelly ont un petit peu cette attitude de se dire ok bon bah voilà je vais peut-être aller
c'est du luxe mais
c'est du luxe mais c'est un petit luxe effectivement et je vais me faire plaisir et je pense que ouais c'est là notre richesse.
Merci beaucoup Valérie Anne Best.
Avec plaisir.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
La chanteuse Emily March et son titre était 22. On reste sur la thématique du fromage pour continuer à saliver, messieurs, dames, en ce samedi midi. On vous parle de la nouvelle série diffusée sur SBS Food et également disponible sur SBS On Demand, Cheese, Searching for a Taste of Place.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Si vous êtes fan de fromage et qui ne l'est pas, on a une nouvelle série pour vous. Cheese, Searching for a Taste of Place avec Will Studd qui est diffusé sur SBS Food et SBS On Demand. Ce passionné de fromage voyage des États-Unis à l'Europe jusqu'en Australie à la rencontre de ceux qui préservent le fromage artisanal. Il nous parle d'abord du deuxième épisode de sa série documentaire dédiée au vrai camembert.
Camembert screams France, as we know, but it's one of those cheeses, once the rest of the world started to copy it and copy the name, it became one of the world's most popular cheeses. The big question, which we tackle in the show, is what happened to real, genuine Normandy Camembert? What is the story of genuine Normandy Camembert? Funnily enough, you know, we say it screams France, but it's actually quite a modern cheese. That's number one surprise. And second thing is that traditional farmhouse Camembert made on the farm, the way it was once made, you know, 200 years ago, had virtually became extinct. And this is a story about Camembert, its origins, how the French got a little confused about its founder and her origins. There's a lovely story about Vermoutier and its connection to Gone with the Wind. And the extraordinary thing about Camembert is that the despite almost becoming extinct, there's been this amazing revival in farmhouse Camembert just in the last few years. And so we visit some of those producers and try and understand why those cheeses are important and how diverse they are. You know, not all Camembert is the same. Camembert is a, you know, its smelly presence is something special, but every area of France, every farm on France produces something that's slightly different. And this idea that all Camembert should be the same is what industrial Camembert is about, but real, genuine farmhouse Camembert, and indeed, Camembert de Normandy, you know, each region has a distinctly different taste and smell to it that you can only appreciate if it's made the traditional way. I mean, the whole thing about industrial cheesemaking is to make the same thing all the time. It's awfully clever. And as a society, that's what we expect in our world today. But when it comes to real, really interesting cheese, it really starts with the milk and a reflection of place. And that's why the show is called Searching for a Taste of Place. It's about cheese that has a genuine taste of place, not just Camembert. So, you know, Camembert is made in Korea, it's made in Australia, it's made all over the place. It's made all over France too. But real Camembert comes from Normandy. And if you want the essence of it all, it's a Camembert Fermier.
Cet épisode dédié au camembert met clairement de l'avant qu'un camembert industriel et un camembert fermier sont très différents.
I mean, basically, an industrial camembert will be pretty boring. Oh, well, not even pretty boring, just boring, predictable. It'll be a white mold, and it which tastes like cardboard after a little bit of time with some creamy stuff in the middle, whereas a farmhouse camembert will have a real smelly presence. It'll be a distinct aroma. It won't have a a white rind at all, except when it's very young. Essentially, it will be wrapped up in a wax paper and held in a wooden box. And as it matures, the rind on the outside will develop little bits of mottled orange on it. It'll become slightly wavy, and it'll slowly develop a real a lovely smell and taste, a bit like wet straw and rotting cabbage.
Dans le troisième épisode de Cheese, Searching for a Taste of Place, Will Studd parle de microbes et d'un autre fromage français très spécial.
Now, Salaire Tradition is another really interesting cheese. That's in the episode on milk and microbes. Milk and its microbes. You know, you can't make really great cheese without great quality milk. That's the number one point. And when you industrialize cheese making, essentially you destroy milk. You pasteurize it and you destroy all its identity. And there's no incentive, funny enough, to make good quality milk at that point. You're just about producing milk for the lowest possible price and being able to add microbes into it to make it taste good. That's very different to interesting cheese with a taste of place. We're talking about good quality milk, but then how do you turn it into great quality, interesting cheese that reflects the taste of place? And Salers is one of those cheeses that goes back a very, very long time. Nobody's quite clear. But what makes it exceptional is that it's that the cows are milked in the fields, but they're milked straight into wooden vats, and the cheese is made in those vats. So the milk is still warm as the curd is set. And that's a very old traditional way of making cheese. So the milk is full of microbes, and so are the wooden vats, the girl, as they're called, G-E-R-L-E-S, just in case you think I'm talking about something else. And that means that because they're wood, the milk stays warm. And that way of making cheese, you know, must go back a very long way. But the French government tried to ban it, and there's a famous scientist who looked into it, and they prevented that. And this Salers tradition, they only make 80, 90 cheeses a year, but it's really exceptional. And the story behind it is an affineur in France is really supported. So there's a lovely interview of tasting it when you get to see the show in these railway tunnels. It's really an exceptional cheese. It's got a flavour that's somewhere between Lancashire, but it's got a slightly pondy flavour too. An interesting pondy flavour, if you can imagine such a thing. I mean, we talked about camembert and sort of brassica flavours and wet straw. I know I'm sort of pushing it here with a pondy flavour too, but funnily enough, there is such a thing. And the funny thing about Salers tradition is it also has very close links with an English cheese called Lancashire. So we travel to Lancashire to meet the last farmhouse producer of Lancashire and compare the difference and interview a few people along the way about milk and microbes and their impact on cheese making. You know, the funny thing in our modern world, we're sort of scared of milk and we're scared about microbes, but, you know, they're actually what life's all about. If we didn't have them, there wouldn't be any life. So we need to get over that one and just understand that they're an essential form of living, and they're also an essential form of about when it comes to making interesting cheese. So this really looks at the importance of microbes and how they influence cheese and why those cheeses deserve a place at our table. I'm not anti-industrial cheese. I'm just trying to say This form of cheese making is very important to preserve so that our children get a choice about whether it's still there. If it becomes extinct, then it may not come back.
Les six épisodes de Cheese Searching for a Taste of Place avec Will Studd sont diffusés sur SBS Food et SBS On Demand. À ne pas manquer.
Il a plu dans la chambre. Est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent. Je cherche un peu la fin. La pluie coule encore. Et moi j'aime quand nos cœurs se dévorent. Je sais qu'on s'aime encore.
C'était la chanson La pluie, interprétée par Louane. Vous avez sûrement reconnu sa voix. Louane qui d'ailleurs représentera la France à l'Eurovision. L'Eurovision, un concours qui représente la diversité culturelle, tout comme les langues étrangères. Chaque personne qui arrive en Australie sait bien l'importance de préserver ses racines et de continuer à parler sa langue maternelle. Puisque la langue fait partie intégrante de notre culture, eh bien les langues autochtones d'Australie ne font bien sûr pas exception à la règle. Elles reflètent la diversité des peuples des Premières Nations d'Australie. Et sachez que plus de 100 langues des Premières Nations sont actuellement parlées en Australie. On en parle plus en détail dans un instant. Restez sur SBS French.
Quiconque arrive en Australie peut comprendre l'importance de maintenir sa langue maternelle vivante. La langue fait partie intégrante de la culture et les langues autochtones d'Australie ne font pas exception car elles relient les gens à la terre et au savoir ancestral. Plus de 100 langues des Premières Nations sont actuellement parlées à travers l'Australie. Certaines d'entre elles ne sont parlées que par une poignée de personnes et la plupart risquent de disparaître à jamais. Mais beaucoup de langues autochtones sont en cours de revitalisation. Dans cet épisode d'Australia Explained, nous explorons la diversité et le réveil de premières langues d'Australie. La langue est très spécifique à un lieu, à un peuple. On dit que la terre a donné naissance à la langue. Cathy Trindall, vice-présidente de l'Aboriginal Language Trust, explique comment la langue fait partie de son identité.
It tells me who I am. By knowing language, I know country and country knows me. It's important that you have a sense of belonging and knowing. And with language comes cultural responsibility. Language comes with knowing narrative of country. I'm a very proud Gomeroi Marliyina from northwestern New South Wales, the Black Soil Plains of Narrabri. And I know that's where I belong because my name, my language, my culture tells me that. And that's my place of belonging.
Le recensement australien de 2021 rapporte que 77 000 personnes des Premières Nations parlent actuellement soit une langue aborigène ou une langue du détroit de Torres. Avant la colonisation européenne, des centaines de langues et des dialectes étaient parlées à travers l'Australie. Combien de langues étaient parlées exactement? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question, explique John Gibbs. Il est un fier homme Wiradjuri de l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud et directeur exécutif du groupe de recherche et d'éducation à l'IATSIS, l'Institut australien d'études aborigènes et des insulaires du détroit de Torres.
If you consider only languages that are so different that someone from the neighbouring language cannot understand what you are saying, then there were over 250 different languages. However, language is also a form of social identity. Australian English and American English are technically the same language, but as Australians, we definitely identify very strongly with one, not the other. If you look at languages from the point of view of social identity, there were more like 600 to 800 different language varieties used in Australia.
Ce chiffre a chuté rapidement après la colonisation européenne. L'IATSIS collecte des données sur les langues autochtones à travers l'Australie. La dernière enquête de l'IATSIS de 2019 rapporte que seulement 123 langues autochtones sont actuellement utilisées ou en cours de revitalisation. Leonora Didi est linguiste et interprète traductrice des îles du détroit de Torres. Les habitants du détroit de Torres sont un groupe culturel distinct, différent des aborigènes. Et même au sein de ce groupe, ils parlent deux langues distinctes avec environ 6 dialectes différents.
In Torres Strait Island, there is one group, the western and central part of Torres Strait, that speak one language, which is classified as an Aboriginal language. The languages that are spoken in the eastern part of Torres Strait, the Papuan language, we might have Papuan words that are common, but the grammar and the vocabulary, that are unintelligible.
Le créole du détroit de Torres, qui est un mélange d'anglais australien standard et de langue traditionnelle, est une langue communautaire relativement récente. Selon l'Australian Bureau of Statistics, ABS, c'est désormais la langue des Premières Nations la plus parlée. La plupart des langues actives à travers l'Australie et le détroit de Torres ne sont parlées que par des personnes âgées. Et parmi ces langues, une centaine sont considérées comme étant en danger d'extinction et seulement 12 d'entre elles sont apprises par des enfants comme langue maternelle. Après la colonisation européenne, les langues autochtones ont presque disparu en raison des politiques d'assimilation de l'époque et de l'éloignement forcé des enfants de leur famille et de leur communauté. Les gens se sont vus refuser le droit de parler leur propre langue, mais certaines ont été parlées en secret et transmises discrètement aux jeunes générations. Comme l'explique M. Gibbs, les langues des Premières Nations ont dormi.
We call languages that haven't been spoken for some time sleeping, not dead or extinct. This is because something that is sleeping can be woken up again.
De nombreux Australiens apprécient de plus en plus l'importance de faire revivre et d'entretenir des langues des Premières Nations. Par exemple, on trouve de plus en plus des termes locaux utilisés comme nom des lieux, mais la revitalisation des langues des Premières Nations est complexe. Leonora Adidi explique que si certaines langues sont florissantes, d'autres ne sont parlées que par une poignée de personnes. Cela est en partie dû à la diversité linguistique.
There are many, many languages. We are not a monolingual society. In terms of getting support and having a nationwide tool to effectively have a nationwide program to revitalize languages, the challenges are much greater than if we were, say, homogenous and monolingual.
L'IATSIS abrite des manuscrits, des revues, des enregistrements audiovisuels, en particulier ceux des premiers explorateurs européens qui ont interagi avec les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Ce matériel est utilisé lors d'ateliers communautaires pour aider à revitaliser les langues. L'IATSIS a également financé la publication des dictionnaires dans plus de 20 langues. Mais le réveil des langues ne se limite pas aux mots dans les livres. Pour prospérer, ils doivent être parlés par des jeunes. Cathy Trindall est ravie que son petit-fils fréquente la Gumbangir Gingana Freedom School, récemment ouverte, et c'est la toute première école bilingue autochtone de Nouvelle-Galles du Sud.
It's not just a matter of learning the name of the dolphins or the whales. What they'll learn is that if they go on an excursion, they understand the dreaming path. They'll understand the creation stories. They'll understand that that dolphin is actually a part of the stories which connects them back to where they belong and who they are.
Des traducteurs et interprètes qualifiés sont également essentiels au soutien et à la revitalisation des premières langues. Lavinia Heffanan est une traductrice et interprète à Pintupi Rorija qui travaille avec le projet d'interprétation autochtone de NAATI, l'autorité nationale d'accréditation pour les traducteurs et interprètes.
Well, you know, we're working with people who don't have English as a first language, and sometimes it's English is maybe their fifth or sixth language, for example. There are currently 96 certified Aboriginal and Torres Strait Islander language interpreters from 27 languages.
Les premières langues d'Australie se réveillent. En 2017, une loi a été adoptée pour la toute première fois pour protéger les langues des Premières Nations. En effet, la loi sur les langues aborigènes reconnaît officiellement que les langues font partie du patrimoine culturel de la Nouvelle-Galles du Sud et que les peuples des Premières Nations en sont les gardiens. M. Gibbs souligne qu'un changement positif se produit grâce aux communautés qui revitalisent leurs langues.
Communities are turning the tide and changing the narrative. With the National Indigenous Languages Survey findings that over 31 communities are reawakening their languages. A reawakening a language is one that is gaining speakers after a period of time of not having been spoken.
Madame Heffanan souligne également le rôle essentiel que jouent les professionnels des langues comme elle dans la préservation des langues des Premières Nations.
Practitioners like me nurture first languages by interpreting and translating and continuing to speak and record translated work for people to hear and read along with what is written.
Cet épisode de Australia Explained a été produit par Melissa Compagnoni et traduit en français par Bertrand Tunganami pour SBS French.
La nouvelle chanson de Salif Keïta, Chéri. On termine cette émission, messieurs, dames, avec une rencontre musicale. Félicia Atkinson nous ouvre les portes de son univers mêlant électronique, nature et improvisation, partageant son amour du voyage, notamment en Australie, et sa réflexion sur le rôle de la technologie et du public dans ses créations.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, on a le plaisir ici à SBS de recevoir Félicia Atkinson. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler musique, on va parler de votre art, de votre univers, on va parler du dark mofo qui arrive aussi. Parlez-nous tout d'abord de votre univers musical, parce que c'est quelque chose de bien spécifique à vous et c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui, c'est toujours difficile de décrire sa propre musique, mais on peut dire que je suis dans le champ de la musique ambiante expérimentale. J'utilise à la fois des sons électroniques, des enregistrements, des field recording de la nature, de la voix, du piano et différents types de synthétiseurs et de claviers. Mon dernier album s'appelle Space as an Instrument et il est sorti sur le label Shelter Press en octobre 2025. En 2024, pardon.
C'est un univers, j'allais dire, spécifique, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose qui a évolué au fil des temps, parce qu'on sent que c'est un petit peu, c'est sûrement un genre musical qui est là depuis plusieurs années quand même. C'est pas, il y a pas forcément un effet de mode sur l'univers dans lequel vous êtes.
Oui, beaucoup de gens disent que c'est un peu Brian Eno qui aurait inventé le style de l'ambiante musique dans les années 70. Moi, je suis née en 81, donc oui, je fais de la musique depuis maintenant plus de 20 ans. C'est une musique qui me tient à cœur parce que je pense qu'elle est très liée à la notion de paysage, par exemple. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis contente d'aller en Australie. J'y étais déjà allée en 2017. Ça avait inspiré pas mal de ma musique déjà, et donc je suis ravie de revenir.
L'Australie, en parlant un petit peu de l'inspiration que ça a peut-être pu vous donner, justement, parce que c'est des univers différents, c'est des sons différents, c'est des odeurs différentes, c'est des animaux différents, et on sent que c'est vraiment donc dans votre univers. Vous attendez justement d'être réinspiré encore plus avec l'Australie sur votre voyage?
Oh oui, il y a cette notion de changer de pôle que je trouve formidable déjà, de changer de saison. Enfin, il y a un passage comme ça qui s'opère. On sent vraiment que la planète est ronde quand on fait des grands voyages comme ça et c'est un peu vertigineux, mais c'est inspirant aussi au niveau musical. Et puis il y a tellement d'oiseaux notamment qui font des chants et qui se manifestent de manière très différente de la Normandie où j'habite. Et puis moi, j'adore voyager tout court. Donc c'est vrai que le voyage fait partie de la manière dont je travaille. J'enregistre toujours beaucoup en voyageant parce que je pense qu'on n'a pas la même écoute quand on est un petit peu étranger. Et parce qu'on voilà, on a une écoute qui est un petit peu décalée et elle permet une surprise. Et une attention aussi.
Alors, le public peut s'attendre à quoi, justement, avec vous en Australie? Je l'ai dit dans l'énoncé, il y a le festival Dark Mofo, mais il n'y a pas que ça non plus. Comment on peut être exposé à votre musique, à votre environnement, à votre monde en Australie?
Donc, il va y avoir 4 concerts. Le premier a lieu donc en Tasmanie, à Hobart, à Dark Mofo, le 15 juin. Ensuite, je joue le 17 à Brisbane, à l'Institute of Modern Art. Le 18 à Sydney, à la National Gallery de Sydney, et le 19 à Melbourne, à Miscellanea. Donc, c'est 4 concerts qui sont toujours un peu différents parce que la voix et les claviers sont improvisés. Donc, vous pouvez imaginer une musique assez calme en réalité, mais enveloppante, avec de la voix, du piano et une variété de paysages sonores.
J'allais y venir en fait parce que, d'après ce que je comprends, l'univers d'un album et l'univers d'un concert, pour vous, c'est deux espaces différents. Il y a beaucoup de place à l'improvisation, à l'environnement qui vous parle et vous lui répondez.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'écoute si on ne la pratique pas, même au moment du concert. Et la grande différence, c'est que le disque, je le fais vraiment dans l'idée que les gens l'écoutent de manière individuelle, soit avec des écouteurs sur leur téléphone, par exemple, en voyageant, en marchant, ou sur un disque vinyle dans leur salon. Donc, quand je compose un disque, c'est beaucoup plus dans l'idée d'une pièce qui est liée à, un peu comme un roman, quoi, un one-to-one, une individualité entre une personne et une autre. Et lors du concert, il y a une dimension plus collective, où finalement le public fait aussi participe, je pense, de manière active en fait à ce qui a lieu. Il influence ce qui se passe sur scène juste par sa présence silencieuse. Et voilà, ça a une influence sur ce que je vais jouer. Ça va être un peu différent.
la technologie pour vous, parce que vous êtes dans un univers qui est très naturel, qui est très organique, mais il y a la technologie aussi. Donc est-ce que les gens avec les téléphones, par exemple, dans les concerts, ça vous dérange? Ou est-ce que pour vous la technologie c'est une opportunité justement d'aller un peu plus loin? Comment vous vous situez par rapport à l'invasion entre guillemets, et je mets des grandes guillemets, de la technologie dans l'art, dans la musique, et on parle même pas de l'intelligence artificielle là, hein, mais de ce rapport que l'humain a à la technologie par rapport à peut-être votre environnement qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus organique.
Je pense que c'est la question de l'outil et de l'intelligence, c'est des mots intéressants. Il faut revenir à la... Souvent, on utilise des mots sans penser à leur sens premier. Un outil, ça doit être utilisé avec soin et intelligence, quel qu'il soit, que ce soit un enregistreur numérique ou analogique. Et donc, moi, ça ne me dérange pas, la technologie, à partir du moment où elle est dans un souci, en fait, dans une délicatesse. Et je pense que c'est des mots qui sont importants parce que quand on a inventé l'appareil photo ou l'enregistreur, c'était aussi des outils qui pouvaient paraître intrusifs ou inquiétants, et certaines personnes ont su bien les utiliser et d'autres pas. Je le vois pendant les concerts, les gens, ça leur arrive d'utiliser leur téléphone pour faire des stories, mais ils le font très peu. Ils le font au tout début et à la fin, comme s'ils comprenaient tout de suite qu'il y avait un respect mutuel à avoir, où moi je parle pas très fort en concert. Il y a parfois des grands moments de silence, et donc ça veut dire que je laisse la place au spectateur quelque part, et du coup il me laisse aussi une place. Et en tout cas j'avais eu la chance pour le moment d'avoir une certaine entente sans discuter avec le public, où je sens que il a pour la plupart du temps beaucoup d'égards, et c'est, ça fait du bien en fait. Je pense que c'est possible d'utiliser la technologie sans qu'elle soit forcément agressive ou vulgaire, quoi.
Ça doit être rafraîchissant pour une artiste, ça.
Oui, et puis c'est toujours plein de risques. Mais vous savez, moi, je suis très inspirée par le groupe de recherche musicale Lina GRM, qui a été créé dans les années 50, et c'était des compositrices et des compositeurs qui bidouillaient. Ils utilisaient des machines déjà, mais ils le faisaient avec beaucoup d'humour et c'était ludique aussi. Et voilà, en fait, si on pense qu'on peut faire ça de manière très plastique, très ludique, très non soumise, en fait, d'utiliser les outils comme des choses créatives, alors il y a plein de choses à faire.
D'accord, ça a l'air très intéressant, rafraîchissant et intriguant à la fois. Où peut-on trouver un peu plus d'informations?
Donc sur mon site, feliciaatkinson.com, et puis vous pouvez écouter ma musique sur toutes les plateformes musicales.
D'accord, okay. Merci Félicia.
Merci beaucoup, bonne journée.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau samedi. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.